Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers, votre quasi quotidienne d'actualité locale et estivale. Et ce soir, on va parler culture dans sa diversité et surtout spectacle et culture vivante, puisqu'en effet, depuis ce week-end, a repris au château du Plessis-Massé une programmation culturelle. Et oui, vous avez bien entendu, il y aura possibilité de retourner voir des concerts, du théâtre ou du cirque en vrai. Pour en discuter plus longtemps, je me suis entretenu avec Emmanuel Dupont, directeur du château du Plessis-Massé, mais également coordinateur et programmateur de cet événement. Enfin, pour conclure l'émission, nous rejoindrons Iris pour sa chronique toujours décalée, qui, en contre-pied de l'actualité parfois pesante de ces derniers jours, a choisi de nous parler des métiers insolites. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Bonne émission à toutes et à tous. Alors que nous nous étions presque résignés à un début d'été sans possibilité de retrouver le plaisir d'écouter de la musique ou d'assister à des spectacles vivants en direct, avec l'impossibilité des salles et des cafés-concerts de rouvrir et l'annulation d'événements estivaux phares tels que Temporive, une belle surprise nous est venue du côté du château du Plessis-Massé. En effet, Anjou Théâtre, le service culturel du département, la ville d'Angers et le quai ont travaillé ensemble, en partenariat avec différentes structures culturelles locales, afin de proposer les bouffées d'art. Une trentaine de dates qui mêlent musique, danse, théâtre et cirque, et ce jusqu'à fin août. Pour en discuter, je suis en compagnie d'Emmanuel Dupont, directeur du château du Plessis-Massé et coordinateur et programmateur de cet événement. Bonjour.
Bonjour.
Je suppose que l'annonce du confinement puis des restrictions sanitaires ont dû être compliquées à gérer, d'autant plus avec les festivals Très tôt en scène et le festival d'Anjou qui devaient se tenir pour vous sur cette période.
Alors c'est vrai qu'on est tous passés par des moments un peu difficiles avec l'annulation des différents événements, des différentes saisons, comme on va dire chacun de nos collègues du secteur culturel ou du milieu touristique pour tous les sites en fait patrimoniaux qui, comme le nôtre, devaient ouvrir. Et il s'avère qu'on a essayé de penser à la manière dont on pouvait, d'une part, exister pendant ce confinement. Donc au niveau du château, on a essayé de proposer des choses sur les réseaux sociaux comme beaucoup d'autres sites et opérateurs. Et puis surtout de penser à la manière dont on pouvait éventuellement intervenir. On a une forte identité théâtrale et comme on savait qu'on annulait en fait les différents événements, on s'est demandé si on n'avait pas un rôle à jouer face à l'urgence en fait, on va dire sociale et artistique, qui commençait à monter, puisque du côté du milieu culturel en fait, du milieu du spectacle vivant qui est notre milieu en fait, on intervient à la fois sur le tourisme et à la fois sur le spectacle vivant. Il y avait des vraies questions qui nous étaient posées, relayées par les différents acteurs en fait, des compagnies, des groupes, de certaines structures culturelles, et il fallait qu'on y réponde.
Je sais qu'une des difficultés qu'ont eu pour l'aspect culturel au moins différents acteurs pendant le confinement, c'était le manque d'informations sur ce qu'il était possible ou non de faire. Est-ce qu'il y a eu une phase où ça a été le cas aussi pour vous ?
C'était le cas dès le début. C'est vrai que je pense que pour n'importe quel intervenant, et y compris du côté des autorités voilà, déconcentrées, du côté de la préfecture également, en fait, je pense que le relais d'information, le fait de trouver la bonne information et la bonne décision, ça a été compliqué à tout niveau. À côté de ça, nous, c'est vrai qu'on a été, on a fait une veille presse et une veille administrative et juridique assez importante pour savoir, d'une part, comment on pouvait réouvrir le site du château, ce qu'on a fait à partir du 6 juin, avec nos collègues de la Cogéa Saint-Martin, en défendant aussi, comme je disais tout à l'heure, en fait, une certaine idée de réouverture. On a défendu le fait d'ouvrir gratuitement, en fait, nos sites en après-midi sur les visites, principalement, pour pouvoir aussi valoriser un peu nos lieux et également valoriser les lieux de nos chers collègues en fait autour, c'est-à-dire recommander aussi nos voisins en fait sur le territoire touristique. Et je pense que ça a donné l'envie en fait de créer du réseau, de mailler. Donc c'est vrai que c'était difficile en fait de savoir comment on pouvait s'organiser, mais une fois qu'on a eu certaines des clés en fait, on a réussi à trouver en fait les valeurs qu'on avait envie de défendre à ce niveau-là.
Et à partir de quel moment vous avez compris, eu confirmation qu'avec la configuration de la cour du château, vous pouviez répondre aux normes sanitaires en ayant tout de même une jauge de 500 places et que vous alliez pouvoir faire cette proposition culturelle estivale?
Alors on a travaillé d'arrache-pied au moment où on a eu déjà en fait la confirmation qu'on était mandaté pour cela. Donc il y a à peu près 20 jours, on n'est même pas à 3 semaines je crois, en fait une vingtaine de jours. On a été donc sollicité par le département de Maine-et-Loire en partenariat avec la direction de la culture pour lancer une saison inédite de soutien en fait au milieu du spectacle vivant, tout en s'harmonisant effectivement, comme vous l'avez précisé, avec lequel la ville d'Angers, mais c'était bien la direction de la culture qui portait en fait le projet avec Anjou Théâtre. Et on avait décidé d'emblée de ne pas le porter tout seul. Donc on s'est redirigé vers tous les opérateurs en fait partenaires culturels du département de Maine-et-Loire. Et pour n'en citer que quelques-uns, le théâtre d'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy par exemple, les Cordes de Loire en fait, qui est un festival en fait de musique classique. On avait le Chabada également, voilà, ils ont été très nombreux à nous répondre avec enthousiasme pour porter une programmation et pour tout de suite savoir dans quelle mesure on pouvait créer ce type d'événement. Donc on a réfléchi en fait au niveau du plein air parce que c'était d'emblée en fait la seule situation qui nous paraissait possible et on a appliqué clairement les préconisations en fait qui étaient relayées en fait par les autorités préfectorales, c'est-à-dire les 4 mètres carrés par personne sur un espace qui n'est pas un espace de voie publique. Donc rapidement on a réussi en fait à délimiter un peu le champ des possibles pour savoir jusqu'où on pouvait aller et on a l'avantage en fait d'avoir une cour qui est fermée avec des infrastructures autour qui nous permettent en fait d'avoir en fait le moyen de filtrer les gens, de compter en fait, d'avoir le moyen de placer en fait des produits pour se nettoyer les mains, d'avoir des sanitaires en nombre en fait aussi pour éviter les engorgements à différents endroits. On peut même en fait les faire sortir du château par une autre entrée que celle par laquelle ils passent. Donc ça a permis d'avancer très vite sur l'aspect logistique et la logistique nous a aussi amené à penser en fait ce qu'on souhaitait défendre en termes de saison. L'idée c'était pas de faire un gros événement, ni de remplacer quoi que ce soit qui ait pu s'annuler auparavant. L'idée, c'était vraiment de répondre au milieu du spectacle vivant. D'où le fait d'avoir une simple scène et de faire quelque chose de très détendu dans l'herbe. On aura le moyen d'avoir de l'assise avec des bancs, quelques chaises par moment, en fait, quand s'en fera sentir la nécessité. Mais c'était important pour nous de vraiment pouvoir répondre rapidement, d'une part parce qu'une programmation en 19 jours, c'est court, je vous l'avoue. Et que heureusement qu'on a travaillé en collectif avec tout le réseau des opérateurs culturels pour avancer très vite. Notamment le Chabada qui était avec nous samedi dernier sur la soirée d'ouverture et également le THV par exemple qui parrainera la soirée en fait de jeudi soir avec la compagnie de danse Amaladiana.
On va y revenir dessus dans quelques instants. J'imagine que oui, quand vous avez proposé le projet à ces structures, tant pour les structures que pour les compagnies que pour les artistes, tout le monde était très enthousiaste à l'idée de remonter un projet et de revenir sur scène.
Alors ça a été même un double effet puisque il y avait naturellement un enthousiasme très fort parce qu'on avait tous envie que ça reparte, envie de relancer quelque chose et surtout je crois qu'on s'est tous retrouvés autour de la même valeur. Je pense que c'est aussi ce sens-là en fait qui nous a manqué pendant pas mal de semaines, qui était en fait de défendre aussi la création artistique, le spectacle vivant dans son ensemble, les groupes pour lesquels en fait on travaille à l'année. Et les compagnies s'y sont trouvées aussi, et la preuve en est, c'est qu'on a vraiment eu un retour d'emblée pour que ce soit simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a créé en fait un cadre dans lequel les compagnies auxquelles on proposait de rentrer devaient rentrer de toute manière. Mais il n'y a pas eu à forcer en fait, parce que naturellement, il y avait une telle envie derrière de pouvoir relancer la machine. L'idée, c'est justement qu'on n'est pas forcément innovant, pas du tout. Il y a pas mal de propositions qui sont sur tout le territoire national. Le début juin, je crois que c'était un festival des arts de la rue, en fait, ou du cirque qui se faisait du côté d'Aix-en-Provence et qui commence à relancer la machine aussi. Donc l'idée, c'est que ça crée des petits, en fait. Ça crée une animation, une envie, en fait, à la fois de la part du public qui a envie de retrouver, en fait, des artistes et puis aussi, en fait, des structures qui puissent organiser quelque chose, qui puissent développer, voilà, tout un mouvement, une dynamique. On a nos collègues en fait de la compagnie du Poulpe pour ne citer que par exemple à Échemiré qui organise le festival du sous-marin en fait dans un jardin avec une cinquantaine de personnes en public pour tout un tas de propositions artistiques justement et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est qu'il faut que naissent des projets en fait d'un peu partout pour que ça se relance et qu'on puisse aussi en fait défendre une certaine idée en fait de la création artistique.
Tu as évoqué la soirée de samedi dernier qui ouvrait cette programmation. J'y étais, le public avait l'air aussi très content. Vous avez eu, ou toi tu as eu, des bons retours sur place?
On a eu vraiment des retours très dithyrambiques, donc c'est très agréable. Moi je garderai et j'invite en fait éventuellement les auditeurs en fait à aller voir sur le profil Facebook en fait du groupe qui est passé en première partie, des Lions pour des Lions. On a eu un petit mot qui était adorable et qui était très touchant en fait, voilà, de quelqu'un qui était ravi de pouvoir aussi reprendre contact avec de la matière artistique, avec une envie, du plaisir en fait sur scène qui était partagé par les artistes. Et je pense que c'est à ça qu'on doit tous tendre en fait. C'est pour ça que les questions d'harmonisation, elles se sont naturellement posées, mais elles se sont faites très facilement avec tout ce que la ville d'Angers prépare en fait pour cet été. On s'est accordé avec le quai justement pour croiser un peu nos propositions, travailler ensemble aussi. Et ça, j'en garde sous le coude puisque je crois que la conférence de presse de Thomas Joly se fait le 26 juin, donc je le laisse présenter un peu sa programmation, mais en tout cas, on aura plein de choses à défendre en commun et je crois qu'on s'est tous en fait entendus sur ces aspects-là.
Oui, j'espère qu'on aura l'occasion, nous, de discuter avec Thomas Joly, effectivement, quand la programmation sera sortie. Comment est-ce qu'elle s'est construite ensuite? Comment elle s'est faite, cette programmation? Puisqu'on trouve à la fois de tout, et même dans la musique, on a différents genres. Comment est-ce que ça s'est mis en place avec, justement, toutes ces structures différentes?
Alors, l'idée, ça a été, dans un premier temps, de faire un appel général, en fait, à tous les partenaires culturels du département, qui sont au nombre d'une petite vingtaine. Derrière, en fait, entre ceux qui ont répondu très rapidement et ceux qui pouvaient répondre, en fait, ça a fait un premier tri, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu une bonne dizaine, en fait, d'opérateurs culturels de la structure au festival qui se sont positionnés pour déjà écouter notre demande, savoir comment ils pouvaient s'insérer. Et ça a été très divers en termes de réponses. On a eu à la fois, en fait, des propositions effectivement, de programmation, des propositions de soutien technique, tout simplement, en fait, et je citerai particulièrement le théâtre régional des Pays de la Loire sur le fait que c'est clairement leur équipe qui s'est mise à disposition et avec laquelle on va travailler courant juillet pour justement nous appuyer parce que eux normalement sont à Avignon en cette période et ils ont bien entendu comme tout le monde en fait voilà déplié les valises et puis rangé un peu leurs petites affaires. Donc en juillet ils avaient du temps en fait à nous proposer et c'est en ça que je parlais de même valeur en fait, de même esprit. Je pense qu'on était tous d'accord sur l'urgence qu'il y avait à défendre un but commun. Et là, je pense que c'est grâce à eux, en fait, à tous les opérateurs, qu'on a pu aller aussi vite. Donc, une fois qu'on a eu toutes ces propositions-là, on a pris le relais, en fait, avec toutes les structures et les compagnies pour pouvoir, en fait, commencer à travailler l'agenda. Et en parallèle, on travaillait toute la partie technique aussi, puisqu'il a fallu qu'on simplifie vraiment la fiche technique à chaque fois, puisque le château n'est pas un lieu, en fait, clos uniquement pour du spectacle vivant. Le château du Pessimacé, tout l'été, on a des visites, les après-midi, qui sont gratuites. On a des animations pour les familles. Donc ça sera à partir du 10 juillet, 3 matins par semaine, à partir de 3 ans pour les plus petits. Et puis surtout, on a des mariages, certains des week-ends, en fait, de l'été, qui reprennent aussi. En fait, on sent toute la vie reprend son cours. Et c'est un quotidien en fait à organiser dans un site comme le nôtre. C'est un vrai Tetris. Clairement, en fait, c'est pas forcément simple. Mais je crois qu'à tout point de vue, en fait, on avait tellement envie que qu'on a essayé d'aller chercher des réponses et trouver en fait aussi une certaine simplicité, de pas s'inventer des postures, mais plutôt en fait d'être à la fois respectueux envers le travail en fait de chacun, notamment artistique, et puis efficace, très efficace particulièrement.
L'idée, c'était aussi de proposer des rendez-vous qui soient accessibles et populaires, puisque les tarifs sont abordables avec un tarif fixe de 10 euros par soirée et 5 euros en tarif réduit.
Exactement. Ça, c'était un élément vraiment très important de notre demande au départ. Et on a travaillé autour de cette politique tarifaire dans le même sens que l'ouverture gratuite des après-midi du château au tout public. Pour donner une petite idée, c'est vrai que nous, on s'est rendu compte depuis le 6 juin, depuis qu'on ouvre gratuitement le château, que dans cette optique de valorisation du patrimoine, on a des publics qu'on n'avait jamais vus, qui viennent au château parce que c'est gratuit, effectivement, parce qu'ils ont pas forcément l'envie de mettre ces moyens-là sur la visite d'un château, parce qu'ils n'ont pas forcément en fait les codes, c'est pas en fait leur sensibilité, et là en fait ils viennent chez nous. Dans le même sens, au niveau du spectacle vivant, on ne voulait pas non plus ni brader, ni forcément en fait créer de l'élitisme, d'où le fait d'être à 10 euros tarif plein, 5 euros tarif réduit en soirée, ce qui était un vrai choix, clairement, de billetterie, hein, et puis de modèle économique. Et pour le, on va dire, les spectacles famille, les spectacles jeunes publics en journée, on passait clairement sur un tarif unique à 5 euros. Et ça, on y tient vraiment très très fort pour cet été, parce qu'on pense que tout le monde a besoin de retrouver un peu de culture, que c'est ça qui redonne goût aux choses, en fait, qui donne du sens aussi. Voilà, donc c'était important de l'ouvrir au plus grand nombre.
On va s'attarder un petit peu sur les dates à venir. Donc tu l'as évoqué, la prochaine sera ce jeudi 25 juin avec une soirée dédiée à la danse en compagnie d'Amal Adianor. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ce jeudi, en fait, c'est donc la deuxième date que l'on aura avec la compagnie d'Amal Adianor. La soirée sera constituée de deux temps, en fait, assez flamboyants, parce que la compagnie d'Amal Adianor, c'est une des plus grosses compagnies de danse contemporaine du département, avec quelqu'un qui a vraiment une stature nationale. Et le premier solo, en fait, qui est porté donc par Amala, en fait, est quelque chose qui figure parmi ses plus beaux morceaux, en fait, ses plus belles séquences. On est sur un format de soirée qui est relativement courte, on est sur une petite heure. Par contre, c'est vraiment à ne pas manquer. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui est magique, qui est physiquement, en fait, voilà, assez ébouriffant, d'autant que la deuxième partie de soirée, en fait, c'est un duo qu'il fait avec un de ses danseurs qui s'appelle B-Boy Junior, qui a été champion du monde de hip-hop, et un duo qu'ils ont tourné sur Avignon, en fait, donc c'est l'année dernière, je crois, et qui a fait un carton, et c'est vraiment quelque chose à découvrir pour vraiment se laisser complètement porter par le travail, la sensibilité et la création chorégraphique, en fait, de cette compagnie. Ça, c'est un vrai temps, voilà, où on attend vraiment, en fait, un public en nombre et en masse. Et puis, on change, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, diamétralement ce week-end, puisqu'on passe plutôt sur du spectacle famine, à partir de samedi et dimanche. Samedi, c'est une compagnie qui est portée, donc, par le Festival Ça Chauffe. C'est la compagnie Les Doutes Faire les Fous, qui est une compagnie plutôt émergente, en fait. Ils ont 3 ans maintenant, et sont 3 contes, en fait, 3 contes qui portent surtout sur Noël, mais qu'on a envie de défendre parce que c'est une super créa, c'est malin, c'est inventif, c'est ludique, c'est ce qu'ils savent faire comme d'habitude, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont, ne s'embarrassent pas, en fait, d'une grosse scénographie, mais par contre, il y a de telles bonnes idées que le public, en fait, en ressort avec un sourire, mais voilà, qui remonte jusqu'aux oreilles. Ça, c'est 15h et 17h samedi. Et puis dimanche, en fait, on est ravis d'accueillir la carrière, en fait, donc l'école qui se trouve à Saint-Barthélemy, des arts du cirque, qui va accompagner donc la compagnie de Trépied sur de la corde, et avec un portique qui sera dans le parc. Ces spectacles-là, pour préciser, en journée, sur le mercredi après-midi ou quand c'est le week-end, le samedi ou le dimanche, sont dans le parc, parmi, en fait, les prairies sauvages. Et l'idée, c'était de valoriser aussi cet aspect nature, en fait. Donc c'est vrai que les gens ne sont pas dans la cour du château, et on est vraiment beaucoup plus champêtre, ce qui met en valeur particulièrement, en fait, le travail des artistes, et ce qui nous permet, en fait, d'accueillir un nombre assez important, en fait, de spectateurs, tout en respectant, justement, en fait, les mesures barrières.
Et pour la suite, pour le reste de l'été, est-ce qu'il y a quelques dates que tu as envie de mettre en avant?
Alors, pour citer des choses différentes, par exemple, on est ravis que le NPL nous suive, en fait, sur cet événement, avec un choix de séquence qui est vraiment, vraiment très grand public, puisque ce sont les musiques de Jim Williams, en fait, qu'ils ont lancées en janvier à la Cité des Congrès de Nantes, en fait. C'était leur création. Donc là, c'est la formation des cuivres, en fait, qui viendra au château. Et on sait déjà que ça remplit très vite, parce que c'est, voilà, c'est les musiques de la Guerre des Étoiles, par exemple. Donc je pense que n'importe qui peut s'y retrouver, en fait, en termes d'imaginaire et de référence, clairement, et de culture. Et ce sera un vrai beau moment, en fait, populaire. Et je pense que c'est un des mots qui n'est pas galvaudé, en fait, dans ce qu'on a envie de défendre cet été, c'est vraiment que ce soit très grand public. On aura beaucoup de théâtre avec notre dispositif qu'on a intégré dedans, qui s'appelle Le Temps d'une troupe, qui mélange amateurs et professionnels, avec Oncle Vania, qui sera joué, en fait, à partir du 20 juillet, qui est une adaptation d'Oncle Vania de Tchekhov, puisque c'est Oncle Vania joué 3-8, et qui est autour des ouvrières de l'usine NIP, en fait, de cette affaire où elles ont créé une pièce de théâtre, en fait, pour revendiquer un peu la fermeture de leur usine et défendre leurs droits. Je pense qu'on a des choses comme ça qui vont faire résonance au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un des messages du spectacle vivant, du théâtre en particulier, de pouvoir aussi envoyer des messages et créer du sens en fait auprès du public. Ça n'empêche, à la fin de l'été, on aura une semaine, la dernière semaine d'août, qui sera une semaine assez intense, puisque on passera de la proposition des Corbes de Loire sur un trio autour de Brahms et Rachmaninoff, avec la même semaine en fait un concert lié aux éclectiques avec le groupe 54 et Merloff, qui commence à monter. Donc on est ravis d'accueillir les éclectiques par chez nous en fait sur ce concert qui sera donc le 28 août. Le 29 août, on enchaînera avec un ciné-concert avec le partenariat avec Premier Plan. Et ce sera le caméraman de Buster Keaton en ciné-concert. Et puis on clôturera le dimanche 30. Avec une petite pastille qui nous permettra de terminer en beauté en fait, c'est le bal Saint-Louis. On fera un bal populaire en fait le dimanche 30 après-midi. Donc il y a plein de choses très très différentes, de la danse, du théâtre, du cirque, du jeune public, du ciné-concert. Et en fait ça montre un peu la chance que l'on peut avoir sur le département de Maine-et-Loire d'avoir une telle diversité en termes de propositions artistiques.
Pour retrouver toutes les informations sur cette programmation, vous pouvez aller à la fois sur le site du château du Plessis-Massé ou sur celui du département. On remettra les liens utiles en description de cette émission sur notre site. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci beaucoup à vous en fait de m'avoir écouté, en tout cas merci, et puis à très bientôt au château du Plessis-Massé.
Et quant à nous, on se retrouve juste après Malena Zavala et le titre La Yarara.
Por favor, déjame hablar porque
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
De retour dans le Pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. On approche tranquillement de la fin de cette émission, mais encore le temps d'écouter la chronique d'Iris qui nous parle des métiers originaux.
Salut, salut tout le monde! Qu'est-ce que ça fait du bien de voir le soleil à nouveau? Bref, j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous. Mais ce n'est pas du bouton que je vais vous parler ce soir. En fait, j'ai découvert quelques bonnes solutions pour vous guider dans votre futur professionnel. N'est-ce pas génial? Alors, je sais que beaucoup de vous sont en plein rush à la recherche du métier parfait ou à la recherche de la formation magique salvatrice. Ou tout simplement parce que les reconversions professionnelles sont à la mode. Bon, peu importe, s'il vous plaît, pas de panique. Sachez qu'il y en a des métiers qui n'ont pas besoin ni diplôme, ni d'expérience. Voici tout de suite ma petite liste SOS qui va peut-être résoudre votre casse-tête et que vous fera profiter de l'été en toute tranquillité. Pour ceux qui préfèrent donc rester au calme, à la maison, pépère, qui vivent à la campagne, tout simplement ont la flemme de sortir, sachez que vous pouvez devenir des verbicrocistes. Qu'est-ce que c'est un verbicrociste? Moi non plus, je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout ce métier. Ce sont les personnes qui font les mots croisés. Non, pas comme vous le dimanche après-midi, ou après le café, ou dans le métro le matin pour faire passer le trajet. Non. En fait, votre mission, ce sera du coup de fabriquer les mots croisés qu'après les gens ils vont remplir. Alors, bon, sachez quand même que c'est une activité assez complexe et qui demande une bonne connaissance de la langue française et de la culture générale. Bon, aussi que ce n'est pas très bien payé. C'est un poste d'habitude un temps partiel, mais j'ai aussi la solution. Vous pouvez toujours retrouver un petit part-time ou vous mettre comme auto-entrepreneur, c'est aussi à la mode. Et en plus, l'État y donne des aides en ce moment. Voilà, vous pouvez facturer 2-3 petites prestations, tout est possible en ce moment. Je vous laisse voir ce que vous aimez, quoi. Pour ceux qui aiment les petites balades près de la rivière, en plus c'est romantique, ou qui veulent partir à l'étranger, vivre dans une petite ville dynamique, vivre une expérience unique, machin, vous pouvez devenir des pêcheurs de vélo. Et où ? À Amsterdam, la petite ville qui est réputée pour être la capitale de la bicyclette. Il y a même la petite légende qui dit qu'il y aura plus de vélos que d'habitants. En plus, c'est une ville hyper touristique, donc vous allez voir des gens défiler partout et de partout. Et il fait bon vivre. Bon, mais que malheureusement, voit ces canaux et rivières se remplir de vélos. Donc votre mission là-bas, ce sera de repêcher, à l'aide des grands bateaux, bien évidemment, les vélos, afin de limiter la pollution et l'encombrement des cours d'eau. Voilà, je vous garantis, vous en avez de quoi en faire. Pour ceux qui aiment les fans, petit avis aux grands enfants, vous pouvez être rémunérés pour vous amuser et voyager. Bah oui, vous pouvez devenir des testeurs de toboggans. Je savais pas non plus que ça existait. Alors je vous explique, il y a une société britannique qui s'appelle The First Choice qui emploie une personne par an pour tester des toboggans du monde entier. En effet, votre travail consistera à voyager, essayer des nouveaux toboggans dans des parcs aquatiques et de les noter en fonction par exemple du splash à l'arrivée ou de l'adrénaline provoquée à la descente. Un truc de dingue. Vous travaillerez seulement 6 mois qui seront rémunérés à 27 000 euros à l'année. Pas mal le bail, hein, 6 mois de travail, 6 mois de repos, le bon équilibre quoi. Malgré le très nombre de postes, c'est à tenter ce coup. Ma dernière suggestion, pour ceux qui veulent voir par exemple les cerisiers en fleurs, ou boire du bon thé, ou comprendre la culture du zen, du yoga, du tranquille, du j'en sais pas, du pilates par exemple, ou travailler un peu les biceps, bien évidemment, vous pouvez postuler pour le poste de pousseur de métro japonais. Alors que vous pensez que le métro parisien est l'enfer, sachez que vous avez tort. Au Japon, il y a des pousseurs pour garantir que tout le monde arrive à leur taf. Bon, du coup, dans ce boulot, vous serez chargé de littéralement pousser les gens à l'intérieur des rames du métro, grosso modo de les tasser, pour que tout le monde rentre. Voilà, simple, basique, sport inclus, vous allez rencontrer plein de gens différents en plus et connaître notre culture. Quoi de mieux ? Voilà, il y en a d'autres que je pourrais vous citer, mais rien de mieux que aller jeter un petit coup d'œil sur Internet. Vous allez certainement trouver la bonne voie. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très belle fin d'émission et à très très bientôt. Keep calm parce que tout va bien se passer.
Voilà, merci beaucoup Iris pour cette chronique. Quant à nous, il est déjà l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dès demain pour un nouveau pédalo. Très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Angers.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.